15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un petit air de la Réunion qui est entré dans ce studio il y a quelques minutes grâce à vous, sœur Noëlle-Marie. Bonjour.
Bonjour Mathias.
Vous êtes sœur de Saint-Joseph de Cluny. Et cette congrégation présente à Lourdes depuis le début des années 80,
1983.
Va quitter Lourdes temporairement, on l'espère.
Sans doute, ce que Dieu voudra.
Voilà, et pour revenir, on l'espère, dans quelques années, puisque vous avez toujours une maison dans la cité mariale. L'histoire de sœur Noëlle-Marie est singulière et nous allons en parler ensemble. Vous avez été enseignante, institutrice, vous êtes née, on l'a compris, à La Réunion, dans cette magnifique île de La Réunion. On verra peut-être un petit peu à votre léger accent.
Une créole puissante.
Et vous êtes depuis 15 ans à Lourdes. Il y a tout un pan de votre histoire qui est là, ancré dans ce territoire, dans ce que j'ai appelé la cité mariale, où vous avez œuvré, évangélisé, partager votre expérience et votre foi. Et nous en parlerons également. Et cela nous dira quelque chose de la présence des sœurs de Saint-Joseph de Cluny dans ce lieu qui, sœurs Saint-Joseph de Cluny, ont comme charisme de promouvoir, vous nous disiez, l'homme à travers le social, l'école et
tout,
la catéchèse.
Tout ce qui se présente dans l'église, quoi.
Vous êtes entrée en religion, ma sœur, j'oserais dire assez tardivement. Vous aviez 28 ans.
J'avais 28 ans.
Mais comment cela se fait-il ?
C'était étonnant pour l'époque, parce que c'était déjà une vieille fille, et les congrégations acceptaient plutôt les jeunes entre 15 et 20 ans.
Vous avez 75 ans ?
Là, j'ai 75 ans, oui. Bon. 75 ans.
Donc 28 ans, ça paraît pas âgé, mais
c'est vrai. Mais à l'époque, c'était âgé, oui, pour se mettre en route dans la vie religieuse.
Et pourquoi, alors, êtes-vous rentrée à 28 ans en religion ? Qu'avez-vous vécu avant ?
Bon, c'était une histoire un peu originale, mais très belle à pour moi. Bon, j'étais enseignante jeune. J'ai commencé à enseigner parce que maman était morte très vite. Avec 12 enfants, mon père demandait ce que chacune se débrouille très vite au niveau financier. Et à l'époque, avec le brevet élémentaire, on pouvait enseigner. Donc, j'ai été enseignante très vite à l'âge de 18 ans. À peine 18 ans. J'avais 17 ans et demi. J'ai commencé à travailler chez les religieuses comme ça. Et petit à petit, j'ai fait ma place dans ce lieu-là, dans ce milieu professionnel, très tôt.
Une famille de 12 enfants. Vous perdez votre maman, vous avez l'âge
9 ans.
De 9 ans. L'âge de 9 ans.
Avec 12 enfants.
Et vous êtes devenue une seconde maman pour les petits.
Une seconde maman pour les petits.
Vous.
Ils étaient 4 petits. Ils avaient 1 an et demi, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et la nuit, c'était moi qui m'en occupais. J'avais une autre sœur qui c'est de m'aider un petit peu, mais c'est surtout moi, pour donner le biberon aux petits, parce que papa, qui était veuf, était, sans méchanceté, je le dis, un peu nerveux, comprenait pas que le petit pleure. Donc la nuit, je me réveillais pour lui donner le biberon que je préparais en cachette pendant la journée, et pour le calmer, pour que papa ne s'énerve pas en entendant le petit pleurer. Très tôt, les religieuses qui étaient dans notre village ont accepté à 2 ans de le prendre à l'école. À l'époque, ce n'était pas pensable. Voilà.
Donc on saute les années, vous avez déjà cette enfance qui vous plonge quand même dans une certaine responsabilisation par la force des choses. À 9 ans, vous perdez votre maman. Et à 18 ans, vous nous disiez que vous êtes déjà enseignante.
Tout à fait, oui.
Vous vivez cette période heureusement, vous êtes à l'aise dans vos baskets.
Je suis à l'aise dans mes baskets parce que j'ai souffert. J'ai souffert parce que moi j'avais la prétention de faire de grandes études. Et ma maman qui était aussi, elle avait que 3 filles et elle voulait que ses filles, elle pouvait pas financièrement pour tout le monde, mais on voulait faire des grandes études, le bac et tout ça. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas de bac, je n'ai que le brevet élémentaire. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'avais pas encore tout à fait 18 ans, j'avais 17 ans et demi, j'allais dans la capitale qui était pas très loin, prendre des cours, parce que j'étais très audacieuse. Je voulais réussir, je voulais aller plus haut et je voulais réaliser le souhait de ma maman qui était de donner à ses filles un enseignement de valeur, de haut niveau. Donc j'allais dans la capitale et je couchais tous les soirs chez les religieuses pour prendre des cours, payants bien sûr, pour arriver au niveau plus loin, passer les examens, le certificat d'aptitude pédagogique, l'écrit et l'oral. Parce que l'oral, il y avait l'inspecteur qui venait, qui regardait un peu ce que nous faisions, si j'étais apte à enseigner ou pas. Et j'ai été apte à enseigner, voilà, mon chemin.
Entre l'âge de 18 ans et l'âge de 28 ans, âge auquel vous décidez d'entrer chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Vous enseignez durant 10 ans?
J'enseignais, oui, les classes primaires, du CP au CM2, certificat d'études aussi à l'époque, il y en avait aussi.
Vous viviez en proximité des sœurs? Vous enseignez dans un établissement où il y a les sœurs?
Oui, il y avait des sœurs et on était en pension chez les religieuses de Saint-Joseph de Cluny, à Chamborne exactement.
Alors, il y a un événement dans votre vie, dans cette période-là, qui est majeur, qui est même fondateur, et on va le voir ô combien. Il porte le prénom d'Iris et de Thérèse. Qui sont Iris et Thérèse?
Deux petites filles, Iris 7 ans, Thérèse 9 ans. Thérèse avait l'âge que j'avais quand ma maman est décédée. Leur histoire, je raccourcis un peu, leur père était alcoolique, violent, et dans sa colère, il a fait un geste maladroit et il a tué la mère. Donc les deux petites filles se retrouvaient orphelines de mère, et voilà, je me suis retrouvée devant ce fait, et Iris, la plus jeune, était dans ma classe. On est allé voir la famille, et le papa qui avait fait le mauvais coup, mais qui prenait conscience, était malheureux. La directrice de l'établissement, sans de me demander mon avis, elle a dit au père, ne t'en fais pas, Noël va s'en occuper.
Vous n'êtes pas sœur.
Je n'étais pas sœur, non, je me trompe. Voyez. Noël va s'en occuper. J'étais simplement laïque, enseignante. Noël va s'en occuper.
Et à ce moment-là, vous ne prenez pas, vous, la décision?
Non,
quelqu'un
pas
la prend
du tout.
Pour vous?
Pour moi, oui. Je ne réalisais pas. Je l'ai accepté parce que j'aimais les enfants et puis j'ai revécu ce que j'avais vécu à la mort de ma maman. Donc j'avais un peu un sentiment de dire que ces fils vivent ce que j'avais vécu moi. Donc j'ai dit je les aide, je fais comme ça sans savoir ce que je faisais.
Et vous allez les élever?
Et je les ai élevés pendant 7 ans.
Mais c'est illégal, ma sœur?
Tout à fait.
Je me permets encore de vous dire,
oui,
les choses.
C'était illégal. Je n'étais pas consciente. Je ne savais pas. C'était mon cœur qui avait parlé. Et j'avais même renoncé, entre guillemets, à mon désir de vie religieuse. Je me suis dit, tu resteras célibataire et tu t'occuperas de ces deux filles. Voilà, c'était ma pensée. Mais je savais que c'était illégal. Et je risquais de la prison. Parce qu'on a cherché à comprendre, l'assistance sociale est venue à domicile pour s'informer de tout ça, voir la situation. Et on a rencontré un prêtre spiritain qui travaillait aussi un peu dans ce milieu-là, de l'assistance sociale, et qui a pu arranger les choses, trouver un chemin d'entente, et j'ai pu continuer à les éduquer comme ça. Je n'ai pas fait de prison.
Et que sont-elles devenues, Iris et Thérèse?
Iris et Thérèse, elles savaient à peine lire et écrire, à peine. La plus grande ne savait pas lire parce qu'elle n'allait pas à l'école, elle aidait sa maman, la plus grande, Thérèse. Iris était petite, elle était chez moi. Elles sont allées à l'école, elles ont réussi, elles étaient très intelligentes. Elles sont devenues, l'une a été, dans l'école catholique, publique, enseignante, et Iris a été comptable, voilà.
Aujourd'hui, elles sont à la retraite?
Elles sont à la retraite, elles sont mariées, elles ont des enfants, et je suis marraine d'un des enfants. Ouais.
Mais elles vous appellent comment?
Elles appellent Noël, mais quand c'est la fête des mères, c'est maman.
Donc vous êtes une sœur religieuse maman?
Oui, sans maternité.
Sans maternité.
Oui.
C'est une magnifique histoire. Enfin, vous le relisez comme ça aujourd'hui.
Je le relis aujourd'hui.
Si ça démarre par un drame. Hein,
ça a été difficile aussi d'éduquer deux filles. J'étais jeune, c'était difficile, mais je suis allée jusqu'au bout et elles ont réussi, oui.
Et comment se fait-il qu'à l'âge de 28 ans, vous entrez en religion? Parce que l'éducation est faite? Parce que la décision peut être prise à ce moment-là? Vous avez déjà ça dans le cœur depuis de nombreuses années?
Oui, 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 depuis ma tendre enfance, le jour de ma première communion, où on avait une procession dans le village, et j'étais habillée en religieuse, et j'ai dit à ma copine, moi je voudrais être une vraie. Et ça a fait son histoire, le Seigneur a fait son chemin à partir de là.
Vous entrez chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, parce que c'était la congrégation présente.
Qui existait à l'époque, il y avait une autre que je n'aimais pas parce que c'était l'hôpital. Moi, je ne voulais pas de la médecine, je voulais l'enseignement. Donc, je n'avais pas beaucoup de choix. Donc, voilà.
Vous allez rester dans l'enseignement pendant de nombreuses années ?
Oui, 40 ans, j'enseigne.
40 ans ?
Oui, à 18 ans, je ne sais pas combien, 40 ans ça a fait en tout. Quoi. À l'âge de la retraite, j'ai arrêté.
Donc ça signifie que les enfants, vous connaissez, vous en avez croisé quelques trajectoires, quelques vies.
C'était ma vie, l'enseignement.
Vous aimiez voir les enfants
progresser,
avancer dans la vie.
Surtout, j'étais dans un milieu à La Réunion très, très pauvre, et des milieux où les enfants ne faisaient pas de différence entre le français et le créole. Donc il fallait à la fois accepter le langage et les amener plus loin.
Vous parlez créole, bien sûr.
On parle créole. On va dire, par exemple, pour dire le riz, on ne va pas dire le riz chez nous, on dit un gazon de riz. Parce que le riz, quand il est cuit, il est comme le gazon. Le créole va dire un gazon. Alors, quand tu dis le gazon, c'est quoi? C'est de l'herbe. Il dit non, le gazon, c'est le riz.
Alors, ah bon.
Et donc, il fallait faire le similaire entre pourquoi on appelle le riz le gazon de riz, parce qu'il est plat comme le gazon. Il y a plein d'histoires comme ça, plein de vocabulaire qu'il fallait à la fois accepter le créole et les amener plus loin pour les études. Voilà.
Dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause, nous parlerons de votre présence à Lourdes depuis 15 ans. Mais avant de marquer cette pause, juste cette petite question. Comment se fait-il que vous quittez votre Réunion natale, aimée, chérie, pour Lourdes ? C'est une décision d'une congrégation qui envoie une sœur un jour quelque part ?
Depuis toujours, j'avais envie d'être missionnaire. Parce que notre congrégation a le charisme d'être missionnaire. On est dans le monde entier. On n'est pas pour un pays propre, pour son pays propre. J'avais envie d'aller ailleurs. Mais comme il manquait d'enseignantes dans nos écoles de Saint-Joseph de Cluny, la provinciale de l'époque ne voulait pas du tout qu'on s'en aille ailleurs. Il a fallu que j'attende la retraite pour que je puisse faire ce que je veux. Voilà.
Et vous avez fait ce que vous avez voulu il y a 15 ans.
Il y a 15 ans.
Missionnaire, vous êtes arrivé à Lourdes. Je suggère, sœur Noëlle-Marie, que nous en parlions juste après cette pause. À tout de suite.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nous nous intéressons au parcours de vie de sœur Noëlle-Marie. Ma sœur, merci de venir témoigner. Alors que vous partez de Lourdes après 15 ans de présence, vous êtes sœur de Saint-Joseph de Cluny et vous nous parlerez un petit peu de l'avenir de cette congrégation à Lourdes, puisqu'il y a un avenir,
oui.
Pour la congrégation à Lourdes, même si peut-être qu'il s'ouvre là actuellement une parenthèse.
Oui.
Sœur Noëlle-Marie, qui sont les sœurs de Cluny, de Saint-Joseph de Cluny ? Vous êtes présente dans de nombreux pays dans le monde ?
On est présente un petit peu dans les cinq continents. Continents. La majorité se trouve dans l'Inde, en Inde. C'est plus de la moitié de la congrégation en Inde. Il y a aussi pas mal à Madagascar, quelques régions d'Afrique, très peu à La Réunion, parce qu'on est un département français, très peu à La Réunion. En France aussi, très moyen, très très moyen en France, oui.
Il y a toujours un charisme, une intuition initiale qui fonde une communauté, une congrégation. Qu'est-ce qu'il en est des sœurs de Saint-Joseph de Cluny ?
Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, le but depuis le départ, c'était le charisme fondamental, c'était faire la volonté de Dieu à travers les événements qui se présentent à nous. Et actuellement, voulant adapter notre charisme à la situation de l'Église actuelle, avec le pape qui nous demande...
Pape François.
François qui nous demande d'aller aux périphéries, le charisme va promouvoir l'homme, mais tout l'homme.
Donc vous faites du social, vous êtes enseignante.
Il y a des sœurs enseignantes aussi dans le monde, pas mal en Inde, mais peu dans les pays français.
Lorsque vous arrivez à Lourdes, il y a une quinzaine d'années, c'est pour faire quoi, ma sœur ? Missionnaire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit.
J'ai cherché, je conduisais, heureusement, il y avait une petite voiture. J'ai pris le plan de Lourdes, et j'ai fait le tour de la ville. J'ai frappé, puis je me présentais, puis j'ai dit voilà, je suis là. Je ne connaissais pas encore le sanctuaire, pas beaucoup. Et j'ai dit je suis là, si vous avez besoin de moi pour quelque chose. Alors c'est le frère Yves qui est décédé maintenant au collège Saint-Joseph qui m'a téléphoné puis m'a dit on a besoin de toi, tu viens. Et puis bon, et j'ai fait la catéchèse au collège pendant 6 ans.
Où avez-vous vécu durant ces 15 ans ?
Dans ma communauté à Landaré, à la rue des Trois Archanges, dans un petit village qui s'appelle Biscaye.
Et donc c'est dans un quartier de Lourdes en fait ?
Un quartier de Lourdes, oui.
Vous êtes plongé dans la réalité de la vie d'un quartier ?
La vie d'un quartier, oui. Oui.
C'est important pour une sœur comme vous de vivre dans un quartier, d'être en contact avec des voisins, oui. Un environnement direct.
C'est très important, très différent les uns des autres. Et je me rappelle quand Monseigneur Brouvet venait d'arriver à Lourdes, il a voulu lancer avec la paroisse, avec le père Duhard, curé de la paroisse, les groupes de quartier et pour aller aux périphéries, etc., pour répondre à la demande du pape. Moi, j'étais là depuis très longtemps et je connaissais très peu mon quartier. Parce qu'on ne se fréquentait pas, on ne se connaissait pas, on se voyait bonjour de loin, mais on ne connaissait pas le voisin d'en face, etc. Le père Duhard qui m'a dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose dans ton quartier de Biscaye. Je crois que c'est un peu sa région à lui, père Duhard. Hein. Je dis, je ne connais personne là-dedans, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Il me dit, si, il faut y aller, il faut le faire. C'était en hiver, j'ai mis mon manteau, mes bottes, et j'ai fait des petits papiers. Et puis je suis allé dans les villages et puis j'ai mis dans la boîte aux lettres. J'ai dit rendez-vous chez moi, tel jour, telle heure. C'était un mardi gras. Apportez un gâteau, si vous pouvez. On va voir. Bon, on était 40 et quelques personnes chez moi. Oui. Tout le petit quartier est venu. On a apporté une bouteille de cidre, un gâteau. Et on ne se connaissait pas du tout.
Mais vous avez inventé la fête des voisins.
La fête des voisins, tout à fait. Mais c'était le mardi gras. Mais je n'ai pas parlé de carême. Qui était le lendemain, pas du tout. Je ne savais pas qui j'avais affaire. J'ai parlé du... On a fait le carême, on a fait le mardi gras.
Ce lieu Lourdes, comment vous le percevez ? Vous avez œuvré à la paroisse, vous avez fait de la catéchèse, vous avez été impliqué dans beaucoup d'œuvres sociales, d'une façon ou d'une autre. Et puis au sein du sanctuaire également.
Oui.
Pour écouter, pour accueillir, pour accompagner de nombreux groupes. Vous nous en parlerez d'ailleurs de ces années d'accompagnement de groupe. Mais Lourdes, le message, le lieu, sa grâce, qu'est-ce que vous en diriez ?
La grâce de Lourdes, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est très mystérieux. Très mystérieux parce que c'est intérieur déjà. Et en même temps, c'est dans le vécu des personnes que je rencontre par après qu'on découvre les fruits. C'est pas un miracle où je vais guérir d'un bras ou ça aussi bien sûr, hein, mais c'est plus que ça. C'est l'intérieur qui est guéri, l'intérieur de l'homme, de la femme, de ce jeune, de cette maman découragée devant un avortement qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas souhaité ou qu'elle a souhaité. Cette résurrection, ces yeux qui brillent parce que elles sont pardonnées, elles n'iront pas. Une femme qui me disait après un accompagnement chemin de la consolation, ma sœur, c'est vrai, je n'irai pas en enfer. Parce que vous m'avez dit que mon enfant qui est au ciel m'attend, que je le rencontrerai un jour. Donc j'ai vécu des témoignages très forts dans ce sens-là, au niveau du sanctuaire, cette année particulièrement avec le chemin de la consolation, les deux dernières années. Quoi.
Parlez-nous de ces deux dernières années, parce que nous l'avons compris, vous avez beaucoup rendu de service partout.
Beaucoup.
Et puis ces deux dernières années, vous vous êtes retrouvé à accompagner des groupes sur un chemin dit de la consolation. Oui. De quoi s'agit-il ?
Mais ce sont des femmes, consolation ou compassion.
Hein, ou compassion.
Oui. Ce sont des femmes qui ont connu, qui ont vécu un avortement, volontaire ou pas volontaire, poussée par le mari ou bien voulue par elle-même, mais qui, quelques années, qui, beaucoup d'années après, qui se croyaient à l'abri de tout danger ou de tout découragement, se trouvent complètement, entre guillemets, paumés, pardon, et qui se disent, bon, on ira en enfer parce qu'on a tué, et qui veulent quelque chose. Je vois cet homme, un père de famille, qui, il pleuvait beaucoup ce jour-là, et qui me disait, moi je pensais qu'on ne l'aurait pas fait parce qu'il pleuvait, personne ne vient. Ils étaient que deux, lui et sa femme, Il me faisait signe, il me voyait, il me dit « Vous faites l'animation ?» Je lui dis « Oui, mais il pleut beaucoup. » Il me dit « Vous ne le faites pas ?» Je sentais son visage. Je lui dis « Si, si vous le voulez, on y va. » Puis on est allé. Et on a marché en silence à un moment, il pleuvait beaucoup. On est arrivé à la croix, près de l'évêché, là, à l'entrée, à la fin du chemin de croix. Il s'arrête et puis il me dit « Ma sœur, c'est moi qui prends la parole. J'étais un coré de femmes. J'en ai connu je ne sais pas combien. Il y a des enfants qui sont peut-être dans la nature, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ce que je sais, c'est qu'il y a 2 ans, il y a une femme, une, qui m'a téléphoné, qui m'a dit « J'attends un enfant de vous. Qu'est-ce que je fais ?» Geste à l'appui, bazar de ça. Il s'est écroulé par terre, sous la pluie, comme un gosse, hurlant, s'accrochant à la pierre. Il était seul avec sa femme, qui lui tenait le dos. Il a pleuré, mais vraiment hurlé. Moi, j'ai dit à la femme, « Et vous, comment vous vivez ça ?» Parce que vous le saviez, elle me dit « Oui ». Elle me regarde, puis elle me dit « Je l'aime tel qu'il est. » Et on continue la route ensemble. Et il s'est relevé, il m'a dit « Ma sœur, j'ai changé mon billet de train. Je devais partir la veille. » Parce que je savais qu'il y avait ça, je ne savais pas, j'ai appris qu'il y avait ça, ce chemin-là. Quelque chose m'a poussé à le faire. Mais à partir de là, le but c'est de les aider à rencontrer un prêtre. Je leur dis, vous avez fait un chemin avec moi, vous n'irez pas en enfer. Mais vous avez besoin du sacrement, et moi ça je ne peux pas le faire. Les prêtres, ils me disent, vous croyez que le prêtre va me pardonner? Je dis, j'en suis sûr. Alors ils vont rencontrer un prêtre, et après ils mettent le nom sur le livre de vie, vous le savez, qu'on met, etc. C'est une résurrection, vraiment une résurrection. Et j'ai des multitudes comme ça.
Vous avez rencontré beaucoup de personnes ces deux dernières années.
Beaucoup. La dernière que je raconte, une femme, elle avait 12 ans, parce qu'il y a femme et homme, plus de femmes, une jeune femme, elle avait 12 ans à l'époque, elle attendait un bébé, je crois que c'est Martinique, je crois. Et elle me disait, elle était très forte, donc ça ne se voyait pas très bien. Elle mettait des vêtements pour cacher un peu à sa mère. Mais il y a un moment, ça s'est vu. À 5 mois, la maman s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose. Et la maman lui a dit, pas question, moi je ne veux pas de ça, tu l'enlèves. Elle l'a emmenée chez le médecin, ni vu ni connu. Plac, clac, tout était terminé. Elle me dit, j'ai eu cet enfant dans mes bras. J'ai tenu sa tête avec ses petits cheveux. Je l'avais tuée. Elle avait 12 ans. Et quand elle m'a vue, elle avait 40 ans. Elle me dit, j'ai 2 enfants depuis. Mais je n'ai jamais oublié cet enfant. Je sens encore sa tête et ses cheveux dans mes mains. Je ne l'oublierai jamais. Je lui ai donné le nom de Désiré. Parce que j'ai toujours désiré cet enfant. Et je l'aime encore. Quand vous me dites que maintenant il va m'attendre, il prie pour moi, etc., que c'est un ange dans le ciel, c'est une joie pour moi, je ne pourrai jamais... Ça me fait ressusciter, quoi. Et j'irai rencontrer un prêtre. Je vous dis tout au prêtre, même ce que vous ne m'avez pas dit à moi. Voilà. J'aurai des milliers et des milliers.
Oui, je vois que vous en avez des récits à nous partager, oui, mais il faut être solide, ma sœur, pour recevoir tout ça.
Il faut être solide.
Comment vous faites? Parce qu'il faut se ressourcer aussi à titre personnel.
Il y a la prière. Hein. Moi, religieuse, j'ai cette vocation première qui est de construire sa vie sur Dieu. Et dans la méditation quotidienne, la méditation à tout moment, quoi. Hein. On a Dieu qui est maître de ma vie, hein. Donc c'est lui qui parle en moi et par moi, qui me donne les mots.
Vous avez été supérieure de la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Lourdes pendant 6 ans. Cette communauté est dissoute, n'existe plus,
non,
on va dire.
Non.
Vous êtes la dernière de la communauté.
Elle a été dissoute dramatiquement.
Oui. Oui. On peut en dire quelques mots pour terminer.
Oui, juste, bon, on était 3, on n'était pas nombreuses parce qu'on recevait les sœurs, on ne pouvait pas avoir beaucoup de monde, beaucoup de sœurs dans la maison, parce qu'on recevait les sœurs qui venaient d'ailleurs pendant en pèlerinage. Donc on n'était que 3, 4 maximum. On était 3. Il y a 2 ans de cela, une des sœurs a eu subitement, sans aucun signe précurseur, elle a eu un cancer généralisé. En 10 jours, elle est partie. Elle est décédée. Donc elle a été enterrée à Lourdes. La deuxième, qui était âgée, qui avait 94 ans, sûrement sur le choc, parce qu'on ne s'y attendait pas, elle est décédée 10 jours après la première.
Donc vous êtes retrouvée
seule. Je me suis retrouvée seule, oui.
Et aujourd'hui, la congrégation a décidé de mettre un peu entre parenthèses la, présence des sœurs à Lourdes.
Oui, parce que je ne pouvais, c'est pas canonique déjà, d'avoir une congrégation avec une sœur. Ce n'est pas une communauté. Et puis en même temps, ce n'est pas humain non plus. Donc je ne pouvais pas vivre seule. En plus, je suis très relation. Les Réunionnais aiment le contact. Donc je ne pouvais pas vivre seule. Donc j'ai dit, il faut prendre une décision. Alors, le supérieur général n'étant pas prête, parce que c'était un chapitre général cette année, avec d'autres décisions à prendre, ont opté pour la location de la maison pendant 2 ans, dans l'espoir de revenir un jour.
Et vous-même, vous quittez Lourdes ? Et
moi, je quitte Lourdes avec beaucoup de, je dirais pas de peine, mais oui, quitter Lourdes, ça fait mal. J'ai quitté des maisons, c'est pas le premier changement, mais quitter Lourdes, ça fait mal parce qu'on quitte quelque chose qui est exceptionnel, un lieu qui est exceptionnel.
Mais par la prière, par la pensée, vous serez toujours à Lourdes.
Bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'un jour, je repasserai par là, on ne sait jamais. Et puis, je ne sais pas où j'irai. Peut-être que je serai encore en France, hein.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Sœur Noëlle Marie de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. On vous souhaite bon vent, Sœur Noëlle Marie, et puis à bientôt à Lourdes quand même.
Oui, et je dis merci à Lourdes, parce que merci à vous, à Mathias, hein, qui a accepté, qui a permis brutalement, je ne m'y attendais pas, de dire ce que je vis. Merci au sanctuaire, au recteur, à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour donner mon témoignage, quoi, pour accompagner des personnes pendant des années et des années. Merci au père Duhat, curé de la paroisse, et les autres curés précédents, le père Savoirin, etc. Tous ceux qui m'ont... Maintenant, il y a le père Luigi aussi, enfin, j'en oublie quelques-uns. Merci à Cello, qui est ma petite sœur, qui m'a tracé qui m'a ouvert la porte pour trouver mon chemin sur Lourdes. Voilà, en gros, c'est un peu ça.
Et nous, on vous dit merci pour tout ce que vous avez fait ici, sœur Noëlle Marie. Merci beaucoup.
J'ai reçu beaucoup de grâce.
Au revoir.
Au revoir et merci, Mathias.
Présence. De passage à Lourdes.
Présence. Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, la vie des chrétiens en Midi-Pyrénées. Des invités en direct, l'actualité de l'Église dans toute la région.
Vivante Église.
Du lundi au vendredi de 9h à 10h.
Rediffusion 21h.
Un magazine présenté par Emmanuel Pella.
Oh.